VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 18h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par la RDC. Nouvelle menace de sanctions européennes contre des responsables congolais à cause du blocage politique et des violences contre les civils dans le pays. Les 28 États membres de l'Union européenne devraient annoncer ce lundi à Bruxelles un gel des avoirs de plusieurs responsables congolais et une interdiction pour eux de voyager dans l'Union européenne à cause du manque de progrès vers un dénouement de la crise politique en RDC. Et toujours concernant la RDC, la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé au début de l'année à Bruxelles, en Belgique, ne sera plus rapatriée ce 11 mars. La famille biologique du leader défunt de l'UDPS a rejoint la position du parti politique qui s'opposait déjà à l'offre de l'autorité provinciale de Kinshasa concernant le site où sera enterré l'illustre disparu. André Kimbunta, gouverneur provincial de Kinshasa, avait offert un espace au cimetière de la Gombe, cimetière qui du reste est déjà désaffecté. Les détails avec Walter Nkouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi n'arrivera plus le 11 mars à Kinshasa. C'est Mgr Gérard Moulumba, le frère cadet de l'opposant disparu, qui a fait cette annonce. La famille politique refuse catégoriquement les lieux proposés par les autorités provinciales de Kinshasa, explique l'évêque. Les travaux entamés sur le site du cimetière de la Gombe doivent être stoppés. André Kimbuta avait annoncé qu'une parcelle de plus de 500 mètres carrés était mise à disposition pour offrir un lieu de sépulture à Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles en Belgique le 1er février dernier. La construction d'un mausolée avait également commencé la semaine dernière. Les travaux d'aménagement étaient censés se poursuivre jour et nuit pendant 14 jours. Peter Kazadi, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, recommande à l'autorité provinciale de suspendre les travaux. La famille a aussi finalement décidé de demander un autre site pour l'enterrement d'Étienne Tshisekedi car, je cite, « la population de Kinshasa s'est largement opposée à l'enterrement à la Gombe et demande l'application de l'accord politique », a expliqué Mgr Gérard Moulumba.
Walter Nkouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Congo, Brazzaville voisin, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, dénonce une régression totale des droits de l'homme dans le pays en 2016. Un constat établi dans le rapport annuel de l'ONG intitulé « République du Congo, une gouvernance par la terreur et le mépris des droits humains ». Pour des précisions, Timothée Donormaya joint à Brazzaville Trésor Nzila, directeur exécutif de l'OCDH.
La terreur contre les adversaires politiques, la terreur contre les paisibles citoyens, l'impunité des violations des droits humains est en train de prendre des dimensions très inquiétantes. Vous lisez le rapport, vous allez vous en rendre compte que la situation des droits de l'homme est inadmissible au Congo-Brazzaville. Et nous sommes donc amenés à sonner l'alarme pour dire aux décideurs que ça ne doit pas continuer comme ça, il faut que les choses changent.
Vous parlez d'une régression totale des droits de l'homme en 2016 au Congo-Brazzaville.
Si on essaie de prendre la courbe 2014-2015 avec le référendum, référendum constitutionnel 2016 avec l'élection présidentielle qui effectivement a été un moment décisif dans la dégradation de la situation des droits humains. Effectivement, 2016 a été très dur en matière de droits de l'homme et je vous assure que 2017 s'annonce encore plus difficile.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, joint à Brazzaville. Crise dans le bassin du lac Tchad maintenant. Les 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite dans les 4 pays de la région, à savoir Cameroun, Nigeria, Tchad et Niger, se disent très attentifs aux besoins des populations locales affectées par les attaques du groupe djihadiste Boko Haram. On écoute Matthew Rycroft, chef de la délégation du Conseil de sécurité, lors de son passage dans un camp de déplacés au Nigeria ce week-end.
Nous avons essayé de mettre la lumière sur la crise oubliée du bassin du lac Tchad. Deuxièmement, nous allons encourager la communauté internationale de mieux répondre à cette crise. Et troisièmement, nous essayons d'encourager les gouvernements de la région de renforcer leurs efforts pour mieux protéger les peuples de la région.
Matthew Rycroft, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité de l'ONU. Et toujours concernant cette crise dans le bassin du lac Tchad, des milliers de femmes déplacées par l'insurrection islamiste de Boko Haram ont protesté dimanche contre leurs conditions de vie précaires dans le nord-est du Nigeria. C'était à l'occasion de la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en tournée dans les quatre pays de la région. Les manifestantes ont accusé les autorités et agences de secours nigérianes de détourner l'aide humanitaire et d'être responsables de la pénurie de nourriture dans leur camp qui accueille 15 000 déplacés à Maiduguri, chef-lieu de l'État du Borno au Nigeria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger voisin, au moins 7 gendarmes ont été tués dans un raid la nuit passée. L'attaque apparemment terroriste s'est produite dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, près du Mali et du Burkina Faso. Le raid lancé par des hommes armés non identifiés a visé un détachement de la gendarmerie stationné dans la zone de Wanzarbe, à 45 km au nord-ouest de Bankilari, rapporte le correspondant de VOA Afrique sur place. L'an dernier, une attaque attribuée à Al-Qaïda au Maghreb islamique avait fait 3 morts parmi les gendarmes dans cette zone. Et puis, en janvier, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une force tripartite sur leurs frontières communes, en passe de devenir, disent-ils, un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels en tout genre. Au Mali, ajournement sinédié de l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou, État Oudéni, dans le nord du pays, en raison de tensions à Tombouctou. La cérémonie d'investiture était prévue ce lundi, après plusieurs reports. Boubacar Ould Amadi, de l'ex-rébellion dominante Touareg du nord du pays, aurait dû être installé à la présidence du conseil régional de Tombouctou depuis le 3 mars. Mais le mécontentement au sein des forces en présence dans la ville bloque l'application de cette clause clé de l'accord de paix d'Alger à Tombouctou. Le Congrès pour la justice dans la Savoie de l'ECJA fait partie des groupes mécontents. Le CJA exige son implication dans la mise en place des autorités intérimaires. Notre correspondant Bamako Kassim Traoré a joint et Amey Agmohamedoun, porte-parole du CJA.
Comme vous le savez, le CJA depuis 3 jours a ses hommes à Tombouctou. Donc une partie de nos forces est dans les quartiers Tabaradou, à Barras, et le reste de nos unités se trouve dans les alentours de Tombouctou. Notre démarche est claire, c'est pour l'inclusivité. Donc nous rejetons les autorités intérimaires exclusives. Les populations de Tombouctou, sédentaires et nomades, ont manifesté clairement aujourd'hui avec une grande mobilisation leur soutien au CJA et les rejets catégoriques à ces autorités intérimaires exclusives. Le CJA a voulu rentrer en ville et les forces barkhanes se sont interposées. Nous avons accepté cela, l'espace élevé des responsabilités de nos officiers sur le terrain après Ali, après les défis. Toutefois, nous mettons en garde le gouvernement de tenter de forcer la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou, parce que si cela est fait, nos forces également vont forcer l'entrée dans la ville de Tombouctou et prendre le contrôle de tous les bâtiments agricoles.
Et Amey Agmohamedoun, porte-parole du CJA au Mali. Actualité aux États-Unis maintenant, le président américain Donald Trump persiste dans ses accusations explosives d'écoutes téléphoniques dont il aurait été victime de la part de l'ex-président Barack Obama. Donald Trump réclame une enquête au Congrès, mais ces accusations suscitent énormément de scepticisme sur la véracité des allégations en question. La commission du renseignement de la Chambre des représentants est déterminée à savoir si l'administration Obama a réellement demandé la mise sous surveillance du président Donald Trump durant la campagne électorale. C'est ce qu'a indiqué le président de cette commission, le député républicain Devin Nunes de Californie. Les précisions de Timothée Donangmaï.
La commission qui enquête sur les interférences de la Russie dans la campagne électorale américaine tentera de déterminer si le gouvernement a mené des activités de surveillance sur des responsables ou des représentants de l'équipe de campagne d'un quelconque parti politique, a fait savoir le député Nunes. Le président Donald Trump a demandé qu'une telle enquête soit conduite dans le cadre de celle sur les activités russes, après avoir accusé sur Twitter son prédécesseur d'avoir ordonné des écoutes téléphoniques contre lui, une accusation catégoriquement démentie par le porte-parole de l'ancien président Obama. L'ancien directeur national des renseignements de l'administration Obama, James Clapper, a assuré sur la chaîne de télévision NBC qu'aucune activité de cette nature n'a été menée contre le candidat Trump ni contre sa campagne électorale. Aucune autorisation judiciaire n'a été sollicitée à cette fin, a ajouté James Clapper. Des législateurs tant républicains que démocrates ont demandé au président Trump d'avancer les preuves de son allégation.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.